du vent. Anne-Cécile Bras, François Porcheron.
Bonjour. Les modèles économiques des entreprises, surtout des multinationales, sont souvent considérés comme des freins à la mise en place de politiques respectueuses de l'environnement. Mais certaines ont décidé d'inverser la tendance et de modifier leur stratégie pour essayer de concilier préservation de l'environnement, développement économique et pourquoi pas sécurité alimentaire. C'est pour aller à la rencontre de ces entreprises que notre studio est installé aujourd'hui à l'usine, un lieu consacré à l'événementiel situé juste à côté du mythique Stade de France dans le nord de Paris. Parce que c'est ici que quatre grandes entreprises françaises ont décidé de se lancer dans une nouvelle aventure appelée Livelihoods, moyen de subsistance en français. Avec nous pour en parler, trois invités. Bernard Giraud, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez en charge du développement durable de Danone pendant quelques années. Et là, vous devenez donc président de Livelihoods Venture. Vous allez nous expliquer ce que c'est. À vos côtés, Gilles Vermeau-Desroches, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du développement durable de Schneider Electric, qui est spécialisé donc dans l'accès à l'énergie et qui travaille dans plus d'une centaine de pays.
Oui, bien sûr, oui.
Et à côté de vous, Anada Tiega, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de la Convention Ramsar qui sensibilise depuis 1971. Hein, de nombreux pays, 160 pays adhèrent désormais à cette convention, à la préservation des zones humides. Les zones humides, c'est pour simplifier la réserve d'eau douce du monde. Alors Bernard Giraud, tout d'abord, est-ce que le fonds d'investissement Livelihoods que vous lancez donc cette semaine est la continuité du fonds Danone pour la nature qui avait été créé en 2008 ?
Oui, c'est la continuation de ce fonds qui avait été effectivement créé en 2008, mais avec plus d'ambition et surtout avec d'autres partenaires. Donc Danone a initié cette expérience de manière un petit peu expérimentale depuis 2008, et aujourd'hui nous nous sentons assez sûrs de nous pour élargir le fonds et créer un autre fonds qui s'appelle Livelihood avec d'autres partenaires, et en particulier pour commencer Crédit Agricole, Schneider Electric et la Caisse des dépôts. Et d'autres entreprises, nous l'espérons, rejoindront ce fonds dans les mois qui viennent.
Alors le but de ce fonds, c'est qu'il réussisse à collecter, si je puis parler ainsi, 30 à 50 millions d'euros d'ici 2012. Alors sous quelle forme, comment ça marche ?
Ce fonds part d'un constat très très simple, c'est que d'un côté, il y a des émissions de carbone, et nous tous, entreprises mais aussi particuliers, l'activité humaine en général génère des émissions de carbone. Et nous le savons, nos pays développés émettent beaucoup de carbone et les nouveaux pays industriels émettent de plus en plus de carbone. Ça, c'est la pas trop bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que pendant que nous émettons, il y a des écosystèmes, des forêts, des océans, des mangroves, du sol qui, eux, captent du carbone, stockent du carbone. Et le propos de ce fonds, le Livelihood, c'est tout simple. C'est d'encourager, de faire en sorte qu'il y ait davantage d'écosystèmes qui séquestrent du carbone. Et bien évidemment, quand on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que des millions de personnes vivent directement de ces écosystèmes. C'est le milliard de paysans ou de pêcheurs ou d'éleveurs pauvres des pays du Sud. Donc si finalement, avec le fonds, nous réussissons à encourager ces écosystèmes, eh bien ces écosystèmes rendent un service aux paysans de ces pays, mais ils rendent un service aussi à l'ensemble de l'humanité, parce qu'ils permettent à nos entreprises de séquestrer une partie du carbone, car bien évidemment nous faisons tous, autant que nous sommes, des efforts pour réduire nos émissions de carbone. Il faut à la fois réduire, changer nos modes de production, changer nos modes de consommation, et il va falloir aussi compenser. L'objet de ce fonds, c'est de compenser à travers des projets qui ont un impact social et environnemental très fort.
Le but, c'est que ça retombe aussi, vous parlez d'impact, hein, que les populations locales puissent se développer économiquement grâce à la préservation de ces écosystèmes.
Oui, c'est de trouver un équilibre entre, d'un côté, des communautés. Hein, lorsqu'on replante plusieurs milliers d'hectares de mangroves au Sénégal, eh bien, on génère des quantités de poissons très importantes. Donc, on restaure les bases alimentaires des communautés du Sénégal. Mais d'autre part, lorsque nous mobilisons l'argent d'investisseurs, c'est-à-dire d'entreprises, eh bien, nous leur promettons un retour sur investissement. Et ces crédits carbone, les entreprises pourront les utiliser soit pour leur compensation c'est-à-dire pour compenser leurs propres émissions, celles de leurs usines, de leurs transports, etc., ou bien les vendre sur le marché.
Alors, il y a trois objectifs à ce fonds, hein, pour résumer, la préservation et la restauration des écosystèmes naturels, le développement de l'agroforesterie et de la restauration des sols, et développer l'accès à l'énergie, notamment dans les zones rurales. Alors, Gilles Vermeaud-Desroches, il y a 1,5 milliard de personnes, hein, qui n'ont toujours pas accès à l'électricité dans le monde, dont 220 millions de personnes en Afrique subsaharienne. Alors, Schneider Electric a lancé, il y a quelque temps, le programme Bibop, hein, qui vise justement à faire en sorte que 1 million de foyers soient relié à l'électricité d'ici la fin 2011, c'est bientôt.
Oui.
Alors, où est-ce que vous en êtes de ce projet? Est-ce que vous atteindrez le million de foyers? Est-ce que c'est ce projet-là qui va s'intégrer dans le fonds Livelihoods?
Oui, partiellement. Au fonds Schneider Electric, qui partout dans le monde aide ses clients à manager leur énergie, ne pouvait pas se désintéresser de ce qu'il se passait pour un tiers de la population mondiale qui sont ce 1,4 milliard d'habitants sans électricité, qui vit d'ailleurs principalement dans les zones dont nous parlons avec ce fonds, en Afrique, en Inde et en Asie du Sud-Est. Donc l'accès à l'électricité, comme d'ailleurs les objectifs du millénaire le précisent, est un bien de plus en plus précieux et nous devons le partager. Nous devons le partager de manière renouvelée, en ayant des innovations. Pensons que si le 1,4 milliard d'habitants de la planète qui n'a pas aujourd'hui accès à l'énergie émettait autant de carbone que les pays développés et ceux qui aujourd'hui ont accès, on sait que par habitant en Europe c'est 8 tonnes par habitant, on sait qu'aux États-Unis c'est plutôt 20 tonnes par habitant, au Qatar c'est 55 tonnes par habitant, si ce 1,4 milliard d'habitants qui est entre 0,1 et 0,5% de tonnes par habitant et par an avait une émission proche de la nôtre, eh bien, on ferait plus que doubler les émissions carbone de la planète.
La planète ne
alors même
pas.
Qu'on sait qu'il faut les diminuer par deux. Mmh. Et
alors,
donc l'ambition de Schneider en participant à ce fonds, eh bien, c'est d'inventer de nouveaux modèles, parce que on voit bien qu'aujourd'hui, on s'est parti des partenariats entre des entreprises, des grandes et des petites, avec des ONG, avec des entrepreneurs sociaux locaux, et c'est ça qui sera le terreau du succès de ce fonds.
Et aujourd'hui, où se trouve le million de foyers concernés par ce projet?
Alors, le million de foyers concernés pour l'accès à l'électricité se trouve principalement en Inde, au Bangladesh, en Afrique du Sud, au Nigeria aussi, et puis un peu dans d'autres pays comme le Vietnam, mais principalement dans ces quatre premiers pays où nous avons mis sur le marché deux types de solutions. L'une qui est pour l'éclairage et le chargement de son téléphone, par exemple, de manière autonome dans une maison qui pourrait être isolée. Et puis une seconde qui est plutôt la création de micro-réseaux de villages qui permet, en plus de ces usages, d'avoir un peu de développement sur le village et puis de vie collective.
Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, l'un des objectifs de ce fonds d'investissement, c'est donc de financer des programmes de restauration d'écosystèmes comme celui mené dans l'est de l'Inde, à une centaine de kilomètres de Calcutta, pour restaurer les Sundarbans. C'est la plus grande forêt de mangroves du monde. Ajanta Day est la coordinatrice de ce projet.
What we are doing in this project is...
L'objectif de ce projet est de planter 6000 hectares de mangroves. Une partie en bouclier biologique, l'autre pour restaurer l'écologie des Sundarbans. Et le facteur communautaire est très important, car l'implication des populations garantit le maintien des plantations à long terme.
Nous faisons tout ça pour préserver la forêt des Sundarbans. Sans les mangroves, nous sommes en danger. Et vous savez, la vie est difficile ici. Ce projet est l'occasion d'avoir du travail et de gagner un peu d'argent.
Ce projet est fondé sur trois paramètres. La restauration écologique du site, le développement socio-économique local et enfin, peut-être le plus important, la compensation carbone. C'est un modèle vraiment intéressant. Travailler avec une multinationale comme Danone, avec le gouvernement, avec les communautés, les associations ou les scientifiques qui nous aident. Je pense que c'est une belle synergie. Et tout cela rappelle que dans ce monde, quel que soit l'endroit où vous vivez, où vous travaillez, c'est à l'environnement qu'il faut penser.
Anada Tiega, il y a besoin de ce genre de projet dans de nombreux pays du monde, hein, puisque les mangroves jouent un rôle essentiel, il faut le rappeler, dans la préservation de l'environnement et la survie des populations.
Oui, absolument. Et les mangroves, c'est l'un des 42 types de zones humides sur lesquelles travaille la Convention de Ramsar. Et je dirais même que, pour moi, en tant que secrétaire général, l'année 2011 a été celle des mangroves. Et j'ai mis l'accent sur la sauvegarde des mangroves.
Pourquoi ?
Parce que nous avons été conscients que les mangroves sont menacées de par le monde entier. Et le point a été fait pour voir où se situent les problèmes et les causes essentielles, les causes profondes. Et il est question que nous mettions un effort particulier parce que les mangroves, ça fait le lien entre les eaux douces et l'eau de mer. C'est un milieu extrêmement riche qui reçoit souvent donc les systèmes fluviaux et qui a accès sur la mer et qui fait que ce milieu extrêmement riche apporte beaucoup à la diversité biologique mais aussi capture beaucoup de carbone et donc c'est important pour nous. Et je dirais que c'est d'autant plus important que au cours de cette année, notre collaboration avec le groupe Danone, avec l'UICN et Ramsar a abouti à la reconnaissance d'une méthodologie pour évaluer la quantité de carbone que peuvent stocker les mangroves.
C'est vraiment un arbre, enfin le palétuvier, qui stocke énormément de carbone par rapport à d'autres ?
Absolument. Non seulement l'arbre stocke au niveau de sa partie aérienne, mais aussi souterraine, parce qu'il a un enracinement assez particulier, mais également, il abrite une faune énorme qui fait que la biodiversité est composée non seulement de la végétation, mais aussi de la vie animale. Et cette biodiversité est transmise au niveau de la mer entière. Donc, c'est vraiment.
Elle permet aussi aux populations de se nourrir.
Absolument, parce que pour la nourriture et pour la protection contre les tempêtes, tout cela est important.
Alors, est-ce que ce genre de projet dont on vient de parler, hein, sur les Sundarbans en Inde, c'est quand même un projet de grande ampleur, puisqu'il s'agit de planter 60 millions de palétuviers sur 6 000 hectares en 3 ans. Est-ce que ce genre de projet est possible sans l'appui des grandes entreprises ?
Non, malheureusement, ce n'est pas possible sans qu'il y ait appui extérieur. Et c'est l'occasion de remercier les entreprises qui se sont engagées à long terme pour appuyer ce genre d'initiative. D'abord, identifier les initiatives qui sont porteuses, les appuyer pour qu'elles réussissent, parce que on s'est rendu compte que au cours des 30-40 dernières années, il y a eu beaucoup d'initiatives locales, mais personne n'a pris soin de les appuyer. Et maintenant qu'il y a un fonds, il y a des entreprises qui s'engagent et qui s'engagent à long terme. Mmh. Ça, c'est vraiment une chose importante à saluer. Et l'engagement n'est pas simplement sur le fait d'avoir des fonds, ce qui est important, mais aussi c'est sur l'approche.
Et le fait que ça bénéficie aux populations locales, par exemple.
Absolument. Oui. Toutes les questions écologiques, sociales, culturelles, économiques sont traitées. On ne laisse rien à part. Et le fait que les communautés doivent s'approprier d'abord de tout le processus, parce que l'initiative ne vient pas d'en haut, mais c'est des initiatives locales qui sont appuyées. Donc l'approche est tout à fait différente. Okay. Et cette approche fait que le local contribue aux questions internationales par la lumière des changements climatiques.
Alors Bernard Giraud et Gilles Vermont-Desroches, on comprend bien les applications concrètes de ces crédits carbone. On en aura d'ailleurs d'autres illustrations dans la deuxième partie de l'émission. Mais vous savez aussi que ces mécanismes de crédit carbone sont très critiqués en disant que justement c'est une espèce de fuite en avant, que c'est du droit à polluer pour les entreprises, que finalement une entreprise comme Danone, par exemple, pourrait faire moins d'actimel, c'est-à-dire ces petits yaourts à boire, ces petites bouteilles là qui consomment beaucoup d'énergie. S'ils arrêtaient ça, par exemple, ça ferait moins d'émissions de carbone. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ?
Je vais reprendre ma casquette de directeur de développement durable de Danone.
Mais je ne l'ai pas oublié, d'où ma question.
Exactement. Je crois qu'il faut être très lucide. C'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour n'importe quelle institution et c'est vrai pour tous les citoyens. Ce que nous savons, c'est que nous devons changer, décarboner d'une certaine manière nos modèles de production et nos modèles de consommation. Lorsque Danone a décidé en 2008 de baisser de 30% son empreinte carbone en 2012, c'est-à-dire en 4 ans, sur un groupe de 100 000 personnes avec plus de 150 usines, c'était un pari fou. On est en passe de le réussir puisqu'on est maintenant à un peu plus d'un an de l'objectif et nous savons que nous allons y arriver. c'était un moyen d'engager l'entreprise dans quelque chose qui obligeait à changer les technologies, les manières de faire. Gilles en a parlé à propos de l'énergie et plus généralement les matériaux pour vous parliez des emballages. Bien évidemment, tout ça est en route. Mais de toute façon, nous devons être conscients que d'un côté, nous pouvons réduire, mais nous ne réduirons pas à zéro. Parce que dans le même temps, la population mondiale s'accroît. Dans le même temps, les économies émergentes sont en train de se développer à grande vitesse. Et les émissions continuent alors qu'il faudrait réduire sur une base constante. Donc la question de la compensation n'est pas en opposition à la réduction. Il faut faire les deux. Vous avez raison de dire que ça pourrait être perçu comme une espèce de machine financière si nous ne faisions pas de la réduction. Mais nous veillons à ce que toutes les entreprises qui font partie du fonds Livelihood soient réellement engagées dans la réduction. Mais nous savons aussi que pour des centaines de milliers de petits paysans en Afrique, en Asie ou en Amérique latine, renforcer les écosystèmes contribue à améliorer leur vie, mais aussi à séquestrer des quantités de carbone importantes. Le projet du Sénégal que nous avons initié en 2009 va permettre de stocker à peu près 900 000 tonnes de carbone. Bien sûr, nous devons réduire nos emballages chez Danone, mais même en réduisant, eh bien, si nous pouvons en plus stocker 900 000 tonnes de carbone, c'est bien pour tout le monde. Et en plus de cela, nous apportons un bénéfice concret, direct, aux communautés qui vivent de ces mangroves.
Gilles Vermont-Desroches.
Oui, je crois que la réduction des émissions de carbone, ça n'est pas la pauvreté pour tout le monde. Donc il existe une activité économique, il faut évidemment qu'elle continue et il faut évidemment qu'elle invente les chemins pour être le plus décarboné possible. On parle beaucoup aujourd'hui d'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire ne pas acheter les produits, mais seulement l'usage des produits. L'exemple de Vélib à Paris est une belle illustration.
Des vélos en libre-service.
Voilà, des vélos en libre-service, comme ça tout le monde peut utiliser le même vélo. Et donc, on est au début de cette démarche-là. Schneider Electric peut témoigner qu'il a aujourd'hui beaucoup de clients, comme Danone, qui cherchent à diminuer leur consommation énergétique, d'abord parce que...
Donc c'est en marche.
Donc oui, parce que d'abord, diminuer sa consommation énergétique, c'est améliorer sa rentabilité, sa performance, sa compétitivité. Et puis après, comme on ne peut pas tout supprimer, eh bien, la logique de compensation est assez intéressante.
Anna Datiégard, rapidement, parce qu'on arrive à la fin de la première partie de cette émission, il y a urgence, de toute façon, au niveau des zones humides, hein, on le voit concrètement, à intervenir, à agir.
Absolument, parce que déjà dans notre analyse, à partir de 1900, à cette date, on a perdu 50% des zones humides. Et la question maintenant se pose, comment faire en sorte que les zones humides continuent à fournir tous les besoins fondamentaux qu'elles donnent. Et là, l'occasion est donnée pour que les zones humides continuent à donner leurs services par l'intermédiaire non seulement du carbone qu'elles fixent, mais également l'adaptation au changement climatique. Ce n'est pas simplement la réduction des émissions de carbone, mais aussi l'adaptation. Parce que les effets directs des changements climatiques, c'est sur l'eau. Et l'eau va être un problème, soit pendant les sécheresses, ou alors quand il y a trop d'eau. Il faut donc qu'on s'adapte, il faut qu'on arrive à gérer l'eau. Et en mieux gérant l'eau, on va faire en sorte que les écosystèmes continuent à fournir les services dont nous avons besoin.
Donc on voit bien qu'il y a urgence à intervenir. Merci beaucoup à Anna Datiégard. Donc Bernard Giraud, rapidement, c'est un fonds d'investissement. Livelihood, c'est aussi une société qui va développer un savoir-faire, une association qui va réunir tous les bénéficiaires du projet et un réseau de professionnels qui pourront communiquer entre eux sur comment justement parfaire la quadrature du cercle, c'est-à-dire stocker du carbone, préserver les écosystèmes, améliorer la sécurité alimentaire. Merci beaucoup d'être passé dans cette émission. Restez sur RFI dans 3 minutes après un bref rappel de l'actualité. Nous vous ferons découvrir différents projets qui se développent grâce au crédit carbone sur le continent africain. Ils ne sont pas encore très nombreux, mais vous allez l'entendre, ils sont exemplaires. A tout de suite.